à l'est du Belarus, à la frontière avec la Russie.
Pour nous, nous avons une région de Belarus.
Escuchen Radio Belarus.
220807, Minsk, République Belarus. Sie können uns außerdem in den
Если вы спросите, что такое Беларусь, ответим, что это страна, которую возьмут.
Приезжаешь, они очень тепло
встречаются
белорусов.
Прыгожая, поэтичная назва. Найлепшее означение для нашей краины.
C'est la radio Belarusse internationale de Minsk.
Les droits et les libertés civiles, les organisations de la société civile, le dialogue entre la société et le gouvernement dans l'émission Société civile.
Bonjour chers auditeurs, c'est la radio internationale Belarus. Nous vous présentons l'émission Société civile. Chaque année, en avril, on célèbre la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme. L'objectif de cette date est de souligner la nécessité d'aider les personnes souffrant de ce trouble et d'améliorer leur qualité de vie. Or, le nombre d'enfants autistes est élevé partout dans le monde, et cela entraîne des conséquences majeures pour ces enfants, leurs proches, leur communauté et l'ensemble de la société. Actuellement, l'estimation statistique la plus largement reconnue dans le monde des personnes présentant le trouble du spectre de l'autisme, TSA, est d'environ 1% de la population. Les causes des TSA sont encore à l'étude. Les principales causes mentionnées sont génétiques et environnementales, c'est-à-dire l'hérédité et l'influence de l'environnement. Il est important de noter que les vaccins ne causent pas l'autisme. Cela est scientifiquement prouvé. Le TSA est plus souvent diagnostiqué chez les garçons que chez les filles. La principale raison de l'augmentation des statistiques ces dernières années est l'amélioration des méthodes de diagnostic et la sensibilisation accrue de la société. Il est important de savoir qu'avec un soutien approprié, une prise en compte des besoins et une attitude bienveillante, les personnes souffrant de ce trouble neurologique peuvent bénéficier de chances égales et participer pleinement et productivement à la vie de la société. La Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme permet de dissiper les mythes et les préjugés sur les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Elle vise également à fournir plus d'informations objectives, d'unir les efforts des parents, des spécialistes de différents ministères et agences, ainsi que des personnes qui ne sont pas indifférentes aux problèmes des autres. Les gens interprètent souvent mal l'autisme, et plus les gens connaissent cette maladie, moins il y aura de stigmatisation de ces personnes dans la société. À l'approche de la Journée mondiale de la sensibilisation à l'autisme, le réseau du Pacte mondial des Nations Unies au Bélarus, en collaboration avec le studio Théâtre I et avec le soutien de la BSB Bank, a organisé un événement spécial. Cet événement réunit des représentants d'agences gouvernementales, d'entreprises, de la communauté d'experts et d'organisations du système des Nations Unies. L'événement central a été la projection du film documentaire « Qui est le dernier ?», suivi d'une table ronde sur les moyens de promouvoir la réalisation des droits des personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme. En ouvrant la rencontre, le représentant de l'UNICEF au Bélarus, Rustam Kaidarov, spécialiste de la diversité et de l'inclusion à l'UNFPA, Victoria Golovach, ainsi que le chef du département de l'intégration sociale des personnes handicapées du ministère du Travail et de la protection sociale de la République du Bélarus, Elena Zelenko, ont souligné l'importance d'une approche systémique. L'inclusion est impossible sans l'union des efforts de l'État, de la société civile et du secteur privé. Dans le cadre d'un dialogue ouvert, les participants ont discuté ces trois thèmes clés, la communication et l'environnement accessible, la formation et l'emploi, ainsi que l'accompagnement sur le lieu de travail. Au cours de la discussion, les participants se sont rangés à l'avis que le développement durable des entreprises est directement lié au principe d'inclusion et d'égalité des chances. Des mesures concrètes ont été identifiées pour étendre les pratiques efficaces, ainsi que la nécessité de créer des ressources d'orientation pour les parents, les éducateurs et les employeurs.
Vous écoutez le programme Société civile.
Mais maintenant, chers amis, nous allons parler de nos bénévoles. Le bénévolat n'est pas né au Bélarus d'hier, mais il y a encore 15 à 20 ans, peu de gens comprenaient qui étaient les bénévoles, ce qu'ils faisaient et surtout dans quel but. Aujourd'hui, des milliers de personnes dans notre pays sont impliquées dans ce mouvement. Le succès et l'efficacité des activités de nombreuses organisations publiques et institutions sociales dépendent en grande partie de leurs efforts. De plus, chaque année, de plus en plus de personnes rejoignent le mouvement bénévole. Les Biélorusses font du bénévolat dans des projets très divers, prouvant ainsi que cette activité elle-même est si variée que chacun peut y trouver sa propre niche. Romania Zorina, présidente de l'organisation municipale de Minsk de la Croix-Rouge biélorusse, partagera son point de vue sur le développement du bénévolat dans notre pays et sur les relations pour lesquelles les gens s'y engagent.
Мне кажется, в нашей стране волонтерство точно не 40 лет. Потому что сколько я помню себя из детства, всегда были люди, только назывались они другим словом, они назывались.
Il me semble que dans notre pays, le bénévolat n'a pas exactement 40 ans, car depuis mon enfance, il y a toujours eu des gens, seulement ils étaient appelés autrement. Ils s'appelaient Timurovien, ils s'appelaient volontaires, mais c'était toujours ces jeunes et peut-être ces écoliers qui aidaient et qui étaient très socialement responsables et motivés. Avant de travailler dans une organisation publique, je les regardais avec méfiance. Je me demandais toujours pourquoi êtes-vous venu au bénévolat? Qu'espérez-vous en retirer? Car c'est gratuit. En travaillant à la Croix-Rouge, nous avons mené plusieurs études sur les raisons pour lesquelles les gens viennent au bénévolat et il s'avère que l'une des principales raisons est l'empathie, un haut niveau d'empathie inné chez la personne. Ce n'est pas un secret pour personne. Il y avait des gens qui essayaient de résoudre leurs problèmes antérieurs. Certaines personnes ayant connu un malheur dans leur famille ont décidé de se lancer dans le bénévolat. Pour certains, c'était un premier pas vers une profession et c'était aussi une bonne chose, mais il s'agit principalement de nos qualités biélorusses. C'est ce que nous donne, je ne sais pas, la terre, l'air, la nature. La Croix-Rouge biélorusse est fière de ses bénévoles et nous les aimons et les apprécions. Dans notre petite agence, il y a une salle pour les bénévoles. C'est la seule pièce avec une table ronde, la seule pièce avec une bouilloire, une machine à café et tout le reste. Nous les accueillons du mieux que nous pouvons, car ce n'est pas un secret pour personne. Nous avons plus de 500 bénévoles actifs qui travaillent avec nous au moins 4 fois par an, sans compter les jeunes, les adultes dans la ville de Minsk. Ce sont des adultes, 74% sont des femmes, mais ces dernières années, nous collaborons très activement avec notre comité de l'éducation et nous avons compris depuis longtemps que pour former un bénévole, il faut du temps et pour qu'il grandisse, il faut aller à l'école pour que son bénévolat soit ensuite conscient. C'est pourquoi nous avons organisé le premier grand forum où nous avons solennellement accueilli une centaine de bénévoles dans la ville de Minsk et ce sont des écoliers. Ce sont des enfants très spéciaux. Au début, je pensais que ce seraient des élèves de classe biologique, par exemple, qui voudraient faire de médecine ou des classes orientées vers les situations d'urgence. Non, ce sont des personnes complètement différentes, liées de manière non professionnelle, qui s'intéressent au bénévolat. La Croix-Rouge a bien sûr sa propre stratégie. Nous ne faisons pas de bénévolat écologique, notre bénévolat est entièrement social. Ce sont des projets de toutes sortes dans le domaine médico-social, des projets de préparation et d'intervention en cas d'urgence. Le développement du bénévolat lui-même est une direction stratégique pour nous. Donc la contribution et le travail, cet accompagnement méthodologique, peuvent ne pas intéresser un large public. Mais croyez-moi, gérer des bénévoles est aussi difficile que gérer de grandes ou petites entreprises. Il faut savoir et pouvoir le faire. Gérer ne signifie pas nécessairement commander. Ce n'est pas une question de commander, c'est une question de conseiller. Donc la base que nous avons dans la ville et dans le pays aide beaucoup, bien sûr, y compris les organisations publiques. Nous les échangeons, bien sûr. Nous partons toujours des besoins. Nous découvrons d'abord ce qui intéresse les bénévoles eux-mêmes, puis nous découvrons ce qui intéresse les catégories vulnérables de la population. Cela ne coïncide pas toujours, car nous avons eu des bénévoles, de jeunes gens, ils sont venus personnellement. J'ai eu cette conversation dans mon bureau. Nous aimerions aller à l'hospice et y organiser un concert. Bien sûr, c'est une bonne idée de la part des jeunes, mais il fallait un peu les orienter. L'hospice est un établissement où certains ont plutôt besoin de silence, tandis que d'autres apprécieront une communication intéressante sous une autre forme. Donc, orienter et gérer ce bénévolat est l'une des tâches des grandes organisations comme la nôtre. Aujourd'hui, nous travaillons avec les bénévoles à travers la mise en œuvre de ce qu'on appelle les initiatives bénévoles. Des personnes peuvent venir nous dire « je veux faire ceci et cela, mais je n'ai pas les connaissances, les compétences, les aptitudes » ou « j'ai besoin d'un petit équipement supplémentaire ». Nous examinons ces projets ensemble et croyez-moi, les écoliers ont beaucoup d'idées. Des amis de la Fédération de Russie sont venus chez nous et nous avons visité un établissement d'enseignement où nous avons un centre de ressources dans la ville de Minsk. Et puis le bénévolat doit être durable. Beaucoup essaient de montrer « j'ai beaucoup de bénévoles, mais ils partent quelque part ». C'est bien, c'est normal. Si une personne s'est essayée dans une organisation publique et passée à une autre organisation publique, qu'elle est devenue intéressée à être bénévole dans deux à la fois ou dans une seule, il n'y a rien de mal à cela. L'essentiel est que cela profite aux personnes pour lesquelles nous le faisons, pour les bénévoles eux-mêmes, pour les catégories vulnérables que nous aidons.
Чтобы это было на пользу тем людям, ради которых мы это делаем. Ради самих волонтеров, ради тех уязвимых категорий, кому мы помогаем.
Société civile.
Pourquoi les gens font-ils du bénévolat? Probablement parce que les histoires sont toutes différentes. Ainsi, des sportifs deviennent acteurs, des linguistes deviennent clowns hospitaliers, des retraités deviennent enseignants. Le bénévolat est aussi une excellente opportunité de révéler des facteurs insoupçonnés de la personnalité. Y a-t-il quelque chose de plus tentant? Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Vous avez écouté l'émission Société civile. Merci pour votre attention et à la prochaine.
Les droits et les libertés civiles. Les organisations de la société civile. Le dialogue entre la société et le gouvernement dans l'émission Société civile.
Le service tax-free est un remboursement de taxes pour les non-résidents de l'Union économique eurasienne et des réductions sur les achats pouvant aller jusqu'à 15%. Si vous achetez des marchandises à partir de 80 roubles belarusses, vous pouvez obtenir un chèque de détaxe en présentant votre passeport personnel commercial. Le chèque de détaxe est accompagné de bons de caisse et d'une enveloppe spéciale. En exportant des marchandises du territoire de la République de Belarus, on peut obtenir une marque de confirmation d'exportation sur le chèque de détaxe en présentant les marchandises aux emballés aux officiers des douanes. Inscrivez les données nécessaires sur le chèque, déposez-le dans une enveloppe spéciale dans la boîte de détaxe et obtenez le remboursement sur votre carte bancaire ou rendez-vous dans toute agence de la Belarus Bank pour le recevoir en espèces.
Marc Chagall, son génie est connu sur tous les continents. Il est la fierté et le trésor inestimable de l'art mondial. Un de ses tableaux les plus célèbres s'appelle « Au-dessus de la ville ». Cette ville survolée par un couple amoureux est Vitebsk, une ville biélorusse sans laquelle il n'y aurait pas eu de Chagall que nous connaissons. Ici, sur la terre biélorusse, le célèbre artiste est né, a fait ses études et c'est ici qu'il est tombé amoureux pour la première fois. Au cours de sa longue vie, Marc Chagall a vécu, voyagé et travaillé dans de différents pays. Mais comme l'artiste lui-même a reconnu, chaque œuvre de sa riche biographie créative est apparue grâce à sa ville bien-aimée, qu'il inspirait pendant toute sa vie. Mon deuxième Vitebsk, c'est ainsi que l'artiste appelait Paris. Des motifs de Vitebsk apparaissent dans des peintures et des feuilles graphiques de Chagall. Leurs échos retentissent dans des cathédrales de Reims et de Mayence, des théâtres de Chicago, Francfort-sur-le-Main et à Londres, dans des universités de Nice et de Jérusalem, dans le Grand Opéra de Paris, dans le bâtiment des Nations Unies à Washington. Aujourd'hui, les visiteurs de Vitebsk sont attirés par le centre artistique Chagall et le musée de l'artiste, situé dans la maison de ses parents. Chaque été, on y organise des journées internationales de Chagall, rassemblant des artistes, des musiciens, des savants et des amateurs de l'œuvre de Marc Chagall. Même aujourd'hui, son esprit est présent ici, dans cette ville biélorusse dont l'artiste a écrit le suivant. J'aime infiniment mon Vitebsk natal, non seulement parce que je suis née ici, mais surtout parce que j'y ai trouvé une fois pour toute la vie les couleurs de mon œuvre.
Music Box.